Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 ou en 101.7 sur Luc Andiwa. Les émissions sont mises ensuite en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Guy Anton. Bonjour.
Bonjour.
Guy Anton, vous êtes secrétaire général du comité du DIWA, du Secours Populaire. À vos côtés, il y a Françoise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjointe pour DI également. Et puis, au téléphone, nous avons Monsieur Bernard Deuil, qui est lui responsable en communication de la Fédération du Secours Populaire de la Drôme, et avec Madame Nadine Vallier, c'est le cas d'ailleurs. Madame Vallier est là.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, bonjour. Et vous êtes secrétaire générale adjointe aussi.
De la Fédération de la Drôme.
Vous êtes tous ici pour nous parler de cette antenne de Luc Andiwa qui s'est ouverte dans les locaux de l'EVS, du futur EVS sur Luc Andiwa, et qui est à l'adresse donc des habitants du Haut-Diwa. Et donc, vous êtes ici pour nous présenter cette expansion du secours populaire,
voilà.
Qui, à vos yeux, était une nécessité.
Tout à fait. Depuis un an, nous effectuons des livraisons de colis alimentaires dans le Haut-Diwa par des amis bénévoles qui habitent dans le Haut-Diwa, sur Val-Drôme, sur Luc, etc. Et donc, on a su qu'il y avait de plus en plus de demandes de gens dans le Haut-Diwa envers le secours populaire, des gens qui étaient en situation de précarité. Donc on a décidé de monter une antenne par là-bas, donc dans ce secteur. Et nous avons trouvé sur Luc Andiwa, donc le maire nous a proposé un local. Et donc depuis début février, nous accueillons des gens tous les 15 jours pour afin de monter un dossier, afin de les écouter, de leur parler du secours populaire, enfin de monter des dossiers et ensuite donc de préparer des livraisons.
Une petite parenthèse, nous livrons effectivement 45 familles sur le Haut-Diwa et 53 personnes seules, ce qui représente 223 personnes.
Et donc voilà, donc le but de cette antenne, bien sûr, c'est d'accueillir des gens d'abord de les accueillir, de les orienter, de les aider, quoi, les gens qui sont en situation de précarité, de leur proposer bien sûr de l'alimentaire, bien sûr des vêtements, mais pas que. Le secours populaire aussi tient vraiment aussi à proposer des séjours vacances, des s'occuper des jeunes, proposer des séjours de jeunes pour les jeunes, quoi, faire des camps en été, des stages de voile, etc., etc. Et donc voilà, donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de monter cette antenne. Et puis donc on a contacté Radio Diwa pour essayer de diffuser cette information le plus largement possible. Et puis donc voilà, nos collègues de la Fédération de Valence sont là aussi pour nous aider à vous expliquer un peu ce qu'est le secours populaire dans la Drôme, mais même au niveau national, régional, national, au niveau des vacances, au niveau de l'alimentaire et autres, quoi.
Pour donner une précision, donc, les permanences du secours populaire se tiennent donc à Luc Andiwa, 50 rue de la Piscine, de 10h30 à 12h30. Là, donc, pour le mois de mars, le 3 mars, le 17 mars, le 31 mars et aussi le 14 avril. Voilà. Je conseille aux personnes d'apporter les justificatifs de revenus et de charges et de prendre rendez-vous, si possible, au 06 11 20 42 91 ou au 06 09 75 11 26 ou au 06 68 53 11 11.
Merci. Merci pour les renseignements. Cet établissement de cette antenne sur Luc Andiwa, c'est suite à de nombreuses années d'observation, de constatation. Qu'est-ce qui a pu déclencher justement cette installation sur Luc pour le Haut-Diwa?
Ben, pour répondre aux besoins des gens du Haut-Diwa qui viennent, qui n'ont pas toujours la possibilité de venir sur Di par manque de véhicules qui n'ont pas de véhicule du tout et qui ont des problèmes pour se déplacer. Donc c'est pour subvenir à ce genre de besoin qu'on a décidé d'aller au-devant d'eux, quoi. Et sachant qu'il y a pas mal de gens qui sont terrés au fin fond du Diwa, qui n'osent pas trop se montrer. Et donc voilà, on essaie d'être le plus discret possible, bien sûr. Mais voilà, donc la priorité, c'était de monter quelque chose dans le secteur là-bas pour ces gens-là.
Au téléphone, monsieur Deuil.
Oui.
Vous êtes donc responsable de la fédération au niveau de la Drôme. Comment c'est engrangé et comment c'est articulé cette installation du point de vue de la fédération?
Alors, si vous voulez, le comité du DIWA étant autonome au niveau des décisions, c'est effectivement Guy et Françoise qui ont géré ça, parce qu'ils ont une vue beaucoup plus détaillée que nous de la situation locale. Nous, on vient en support pour les aides alimentaires dans le cas où, effectivement, il y a des besoins un peu plus importants. Mais ils sont complètement autonomes dans ces décisions-là, hein, puisque, étant un comité, ils ont les décisions... Bon, bien sûr, la Fédé vient en support, mais elle n'influence pas les décisions prises par le comité.
Et comment se perfectionne cette installation? Il y a actuellement deux personnes qui sont en charge de ce lieu, c'est Yvonne et Geneviève, qui sont certainement bénévoles.
Tout à fait. Yvonne et Geneviève donc s'occupent des permanences, elles ont l'habitude de faire de l'accueil. Et en fait, effectivement, ce sont des problèmes de mobilité qui nous ont amenés à ouvrir cette permanence, et nos collègues qui livrent depuis un certain temps, qui livrent les familles, aussi avaient besoin d'un endroit pour les rencontrer aussi, plus facilement, leur donner rendez-vous dans un endroit.
Je m'adresse à Monsieur Deuil ou à Madame Vallier. Au niveau de la Fédération de la Drôme, est-ce qu'il y a des cas similaires à celui du Haut-Diwa dans le département?
Non, actuellement non. D'ailleurs, on a des difficultés effectivement à trouver des permanences, notamment sur ce qu'on appelle les zones blanches de la Drôme, notamment dans le nord Drôme, du côté de Saint-Donat. On n'a malheureusement pas de contact facile, et donc c'est quelque chose qu'on a développé et qu'on a donné en charge à notre comité de Romans, qui étant plus près de la zone nord de Drôme, doit se charger d'essayer de trouver une solution pour effectivement pouvoir répondre aux besoins des familles et des personnes isolées du nord de la Drôme. Hein, donc ça, c'est effectivement le côté, le DIWA est effectivement en avance de phase, et c'est très très intéressant qu'ils puissent le faire. Alors c'est vrai que dans ce domaine, il y a beaucoup plus de dispersion de personnes isolées dans le DIWA peut-être que dans le nord Drôme, puisque les structures du Nord Drôme, c'est des petites villes un peu plus importantes et les gens sont plus concentrés. Mais c'est des choses qu'on doit développer, et c'est vrai que cette initiative nous donne la possibilité de développer ça dans le Nord Drôme et également dans le Sud Drôme au niveau de Nyons, puisque là aussi on a une zone un peu blanche et où il y a des besoins également qu'on a identifiés, mais où là on a un peu de difficulté aussi à trouver un point de chute pour organiser avec des bénévoles d'ailleurs. Hein. Alors, à titre indicatif, pour vous rappeler un peu la structure de la Fédération départementale de la Drôme, l'ensemble c'est plus de 220 bénévoles, si je peux me permettre de donner un peu des généralités, et il n'y a qu'un salarié qui est le secrétaire général de la Fédération, qui est M. Olivier Prémieux, qui donc tous les partenaires nous aident en tant que support bénévole. Et donc c'est bien le bénévolat qui fait la richesse de la Fédération de la Drôme. Hein.
Un petit rappel quand même aux auditeurs, on pourrait peut-être parler du Secours Populaire, de cette association. De quelle époque a-t-elle émergé?
Le Secours Populaire, si vous voulez, au sens moderne du terme, je dirais, il a été fondé en 1945, juste après la guerre. Là, avant, ça s'appelait le Secours Rouge, hein, pour info. C'était une tendance plus politique que maintenant, puisque maintenant, on est le Secours Populaire, c'est apolitique et à religieux, hein, c'est complètement laïque. Il n'y a pas de tendance à ce niveau-là, ou en tout cas pas dans le secteur du secours populaire. Ce sont au niveau du national, ce sont 87 000 bénévoles qui sont sur le terrain à travers 98 fédérations et 657 comités. Voilà pour vous donner un petit peu les grandes lignes de ce qu'est le secours populaire au niveau de la France. Sur la région valentinoise, je crois qu'il a une quarantaine d'années. Il a été fondé il y a une quarantaine d'années sur la Drôme, avec une évolution bien sûr du nombre de bénévoles. Hein. Bon là, ça se stagne un petit peu. On a un peu de difficulté à trouver des bénévoles. Donc j'en profite pour en accord avec Guy, pour lancer un petit peu la balle au niveau des auditeurs qui nous écouteraient. Si certains se sentent effectivement intéressés par la solidarité, on est prêt à les recevoir, notamment au niveau de Die, je pense, hein, notamment dans ces zones un peu éloignées, pour nous aider à faire cette solidarité qui est, on l'a vu notamment sur les deux dernières années, très, très importante, puisque pour la petite histoire, maintenant on a un petit peu moins de... puisque le Covid régresse. Dans les années 2020-2021, on a quand même eu 25% de demandes supplémentaires de gens qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est au niveau fédération, mais si on remet ça au niveau des comités, c'est à peu près sensiblement égal. Hein. Les volumes, si vous voulez, de demandes qui ont eu lieu suite au Covid. Alors, il y en a qu'on ne voit plus, bien sûr, des gens qui sont venus temporairement parce qu'ils étaient en difficulté pendant ces années-là, mais il y en a d'autres qui sont encore inscrits chez nous, là, notamment à Valence.
D'ailleurs, quelles ont été les difficultés rencontrées par ces personnes à ce moment-là ?
Eh ben, les difficultés, elles étaient très alimentaires dans un premier temps, puisque c'était des gens qui avaient soit perdu leurs emplois puisqu'il n'y avait pas de renouvellement des CDD, soit des gens qui étaient en difficulté à cause des écoles qui étaient fermées, donc les cantines n'avaient plus lieu, donc ça leur coûtait beaucoup plus cher malheureusement de répondre aux besoins de leurs enfants sur le plan alimentaire tous les jours, journalier. Et donc, ils sont vite tombés dans la précarité, hein, pour les plus faibles, hein, en fin de compte. On avait aussi, quand même, faut pas oublier, des gens qu'on a vu arriver, qui avaient des métiers, mais compte tenu du contexte économique de l'époque et du confinement, ne pouvaient plus exercer ces métiers, hein, notamment les artisans, les commerçants qui étaient dans la restauration ou autre. Hein. Donc, ça a été quand même, sur le plan psychologique et également... économique, une catastrophe, hein, sur ces confinements. Voilà, donc là, nous, on était donc au niveau du secours populaire, pour compléter. On est resté ouvert pendant toutes les années qui étaient difficiles. Hein. C'est-à-dire qu'on est ouvert toute l'année par rapport à d'autres associations qui ont peut-être des ouvertures temporaires. Nous, on est resté ouvert et, bien sûr, avec les gestes barrières, on recevait les personnes à l'extérieur des locaux, mais en tout cas, on assurait la permanence alimentaire et vestimentaire. Alors, bien sûr, le principal, c'était l'alimentaire. Le vestiaire était un peu plus fermé, je dirais, que maintenant.
Je reviens à M. Anton. Cette constatation pendant cette période du Covid, comme semblait le dire M. Deuil, c'est vérifié également ici.
Oui, ça s'est vérifié ici. On a eu les mêmes genres de difficultés à dire. Il y avait pas mal de demandes, de besoins alimentaires. On a eu 17% de demandes supplémentaires par rapport aux autres années, par rapport aux distributions habituelles, on avait 17% de plus. Donc effectivement, oui, on a ressenti bien sûr une progression de demandes de gens en situation de précarité.
Pour compléter un petit peu au niveau des activités du secours populaire, je crois que Françoise et Guy l'ont bien mentionné, on a une grosse activité sur le plan des vacances pour aider effectivement les familles à partir au moins l'été en séjour ou en camping, hein, peu importe le lieu. Ce sont beaucoup de familles monoparentales, en tout cas peut-être... plus sur Valence peut-être que sur 10, je n'ai pas le chiffre exact sur 10. En tout cas, ça c'est quelque chose qui tient à cœur le SCOP populaire, au niveau bien sûr régional, local, mais également national. Cette activité qui permet effectivement, et notamment on a pu maintenir cette activité-là malgré les confinements de 2020-2021, où on a pu faire partir quand même des familles en vacances qui leur ont permis de retrouver un autre souffle, hein, et de pouvoir s'écarter un petit peu de ces contraintes psychologiques dues au confinement. Un autre aspect qui est important aussi pour nous et pour l'ensemble des bénévoles du SCOP populaire, ce sont le côté culturel, événementiel, culturel, qu'on essaye de développer également, soit directement avec les enfants, soit avec les familles, en faisant des visites, par exemple, de musées, etc., qui étaient un petit peu mis en sommeil pendant les périodes 2020-2021, puisqu'on ne pouvait pas, compte tenu des contraintes sanitaires, aller dans ces zones de culture. Donc là, on va relancer ça en 2022 et continuer, bien sûr, à augmenter les départs en séjour et en vacances des jeunes, hein, comme l'a dit Guy. On a effectivement, à travers le SCOP populaire, un mouvement qui s'appelle Copains du Monde, qui permet à des jeunes entre 8 et 17 ans de pouvoir partir en séjour Copains du Monde. Alors Copains du Monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une ouverture au niveau international. Et on a, si vous voulez, l'avantage en Romardèche d'avoir un village Copains du Monde qui se tient à Meyras, donc dans des locaux de colonies de vacances, qui accueille chaque année, en tout cas ça va redémarrer je pense, qui accueille chaque année des jeunes étrangers qui viennent d'Europe, mais également de l'Afrique, même d'Asie et dans certains cas, et qui retrouvent donc l'ensemble une soixantaine de jeunes qui se retrouvent ensemble et qui font le but est de qui parlent de solidarité, qui rentrent dans leur pays pour effectivement remettre en place un petit peu cette solidarité à leur niveau. Donc ça c'est quelque chose d'important puisque nous depuis quelques années, on a une montée en puissance des jeunes qui vont dans ces villages-là. Et pour la petite histoire, l'année dernière, il y a eu 10 jeunes qui sont partis à ce village-là, 10 jeunes de la Drôme, hein. Donc c'est une montée quand même importante puisqu'on est passé de 3 à 10 en 3-4 ans.
Oui, c'est vrai Bernard, ce que tu dis, effectivement, pour les vacances, c'est vrai que les familles, lorsque nous commençons à parler de vacances, ce n'est pas leur priorité. Hein. La priorité, c'est d'abord se nourrir, se vêtir, et donc les loisirs passent souvent après. Donc nous insistons auprès des familles, et ici nous avons Fabregas, et voilà ce qui nous permet, avec des demandes de chèques vacances, enfin de monter des dossiers avec la fédération, d'envoyer des familles de Romans, de Valence ou de Die à Fabregas, et aussi d'organiser des journées conviviales. Là, cette année, le samedi 21 mai d'ailleurs, nous allons à Saint-Étienne, nous allons visiter le musée des mines ainsi que le planétarium, et là nous emmenons des familles, c'est toujours de très belles journées. Nous faisons aussi donc participer des enfants dans des colonies aussi, que nous sommes en partenariat avec l'EDF et nous pouvons bénéficier de prix très très bas ou quasiment zéro, donc parfois. Voilà, les partenaires nous donnent des séjours et nous en profitons pas mal.
Je reviens au partenariat pour l'installation sur Luc. Quels sont-ils?
La mairie de Luc, essentiellement. Voilà.
Et pour ces bénévoles qui sont donc Yvonne et Geneviève actuellement, vous êtes en recherche aussi d'autres bénévoles pour les seconder ou les remplacer parfois?
Alors le remplacement sur Luc, nous avons une petite équipe qui s'occupe de l'accueil à Die, donc ce n'est pas pour l'instant une priorité, mais nous avons toujours besoin de bénévoles pour notre boutique. pour notre boutique solidaire. D'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. Nous allons certainement louer un local sur dit très prochainement et ouvrir une boutique solidaire où nous aurons de la vaisselle, des vêtements... de la vaisselle et de linge de maison. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons aussi un petit partenariat avec Valdrome, qui est aussi très éloigné de Die, et concernant la boutique solidaire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient, il y a une liste de demandes, donc elle prend, cette personne de Valdrome prend, d'après la liste, ses vêtements, et les apporte à ce... Au bar à coucou, voilà, au bar à coucou, et bon, voilà, c'est une petite organisation, mais c'est très sympa quand même pour aider les personnes, en tout cas pour se vêtir.
Et ça nous fait une ouverture supplémentaire encore un petit peu plus loin, quoi, au pied du col de Carbe, en fait, donc presque dans les Hautes-Alpes. Et donc voilà, les gens sont très intéressés par ça, bien sûr, mais par le reste, parce que du coup, on leur a fait connaître un petit peu toutes les actions du Secours Populaire, autres que l'alimentaire et vestimentaire. Et donc voilà, c'est très intéressant d'avoir cette ouverture dans ces coins reculés, quoi.
On peut peut-être préciser comment se déroule une demande auprès de l'antenne de Luc pour une aide alimentaire. Est-ce que vous arrivez est-ce que vous êtes sur place avec des produits à distribuer? Alors, est-ce que vous êtes en recherche peut-être d'un local pour mettre en réserve?
Oui, ça, alors là, franchement, oui, nous sommes en recherche d'un local pour poser justement des produits alimentaires secs. Hein, de produits secs, et c'est vrai que ça nous arrangerait bien.
Un deuxième temps, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Quoi. Pour l'instant, on se contente d'accueillir les gens, parce que le local est tout petit, c'est un bureau. On se contente d'accueillir les gens, de monter le dossier, et ensuite, nos collègues, en fonction des demandes, des demandes des gens, quoi, des alimentaires, constituent des colis qu'ils vont livrer, quoi. Ou livrer sur place, dans ce local, ou chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer.
Monsieur Deuil, tout à l'heure vous parliez de zone blanche. Qu'est-ce que vous définissez par zone blanche par rapport au Secours Populaire?
Ce qui n'a pas de relais, ni d'antenne, ni de comité qui permettent d'accueillir les personnes en difficulté. Donc c'est un peu éloigné donc, des secteurs comme Romans où il y a un comité, comme Valence, et donc c'est des zones qui sont...
Qui
ne sont pas couvertes, oui, comme dit Nadine, par le Secours Populaire. Enfin, en tout cas, par un pied-à-terre du Secours Populaire. Et on n'a pas de bénévoles, même identifiés, dans ces zones-là. Donc, on est en recherche. On avait une époque, une personne qui était étudiante, qui avait essayé de mettre en place une structure. Mais bon, comme tous les étudiants, ils sont appelés, bien sûr, à quitter la région ou être appelé pour du travail ailleurs. Donc cette personne n'a pas pu mener à terme sa mission. Mais là, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une personne, donc un bénévole de Romans, qui va prendre en charge et qui a accepté de prendre en charge cette région un peu zone blanche, là, pour essayer de monter une petite structure, ou en tout cas de trouver des bénévoles locaux qui permettent de faire un relais pour le Secours Populaire et apporter les aides nécessaires à ces personnes qui, effectivement, dans ces zones-là, sont aussi en difficulté. Hein. Mais qu'on n'a pas encore complètement identifié. Hein. Il faut savoir que le Nord de Rome étant très proche de l'Isère, hein, de Vienne notamment, souvent, effectivement, les bénévoles vont plutôt sur Vienne que... Et pour essayer d'avoir une aide, alors qu'il pourrait, si on avait une structure et quelque chose, un pied à terre local, on pourrait les recueillir au niveau de Saint-Donat ou de Saint-Vallier, quoi. Hein. Voilà, donc ça, on n'a pas encore ces structures-là, malheureusement. Et c'est ce qu'on appelle la zone blanche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de couverture locale, ni en bénévoles, ni en locaux. Enfin, locaux, au niveau bâtiment, je veux dire. Hein, voilà.
Ce que je voulais rajouter, c'est que la particularité justement du Secours Populaire, et sur le Diwa, elle est quand même bien connue, c'est de pouvoir réagir très très vite, étant donné que nous sommes au niveau financement, nous avons notre propre trésorerie. Donc lorsque les services sociaux nous contactent, nous sommes immédiatement réactif. Et ça, je pense que les services sociaux de DI l'ont parfaitement compris, parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas pour toutes les autres associations.
On peut réagir très rapidement, dans l'urgence, quoi.
Et vous êtes combien sur DI, donc ?
Une trentaine de bénévoles.
Le bénévole, il lui faut du temps. D'ailleurs, il faut qu'il consacre combien d'heures par semaine sur le Secours Populaire ? Est-ce que vous avez une idée ? Et à savoir, est-ce que principalement, ce sont des retraités qui sont bénévoles ?
Oui. Oui, oui. On consacre beaucoup, beaucoup de temps, c'est sûr. Si on veut faire ça, aller jusqu'au bout et faire ça le mieux possible, il faut consacrer beaucoup de temps. C'est sûr. Le bénévole, il y a le bénévole actif, le bénévole occasionnel, auquel on fait appel lorsqu'on a besoin de faire une collecte alimentaire, lorsqu'on a besoin de, au coup par coup, des actions bien ciblées, on appelle les bénévoles occasionnels. Mais sinon, effectivement, le bénévole actif est très occupé entre les distributions alimentaires, la boutique solidaire et tout le côté administratif et puis toutes les actions qu'il faut mener, les réunions. Enfin, bref, c'est quand même très, 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 très prenant, quoi. Et bien sûr, comme dans toutes les associations, on manque de bénévoles, effectivement. On en cherche. Voilà, donc on lance un appel aussi.
Et bien sûr, vous avez pu nous voir sur le marché de DI hier. Donc nous avons le Don Action. Le Don Action, c'est une campagne de solidarité. Donc, et nous serons encore là samedi matin. Donc vendredi matin à Luc. Ça vous donne un ordre d'idée de l'engagement des bénévoles, c'est-à-dire nous étions là hier. Donc vendredi à Luc, vendredi à Châtillon aussi, et samedi matin sur le marché. Voilà, c'est du bénévolat. Il y a beaucoup de retraités. Bon, nous pouvons dégager du temps, parfois beaucoup. Voilà.
Pour vous, ce partenariat avec le village, la ville de Luc, et cette possibilité d'ailleurs de pouvoir avoir cette antenne, est-ce que vous le souhaiteriez aussi, cet engagement, pour d'autres petites villes ou villages du Diwa ?
Certainement, mais là encore, le problème qui se pose, c'est le problème de bénévoles, de temps et de... On a souvent du mal à réunir quelques bénévoles pour aller jusqu'au bout d'une action. Alors, monter des antennes, ça serait assez compliqué à gérer, quoi. Pour l'instant, on essaie, c'est un essai. On va voir si ça va marcher. Mais là, ça a l'air de bien fonctionner, de bien démarrer. On essaye cette antenne de Luc, puis on verra pourquoi pas par la suite, hein, si on arrive à assumer tout ça, quoi.
L'idée, c'est de demander aux copains bénévoles de voir autour d'eux ce qui se passe, hein, d'essayer de trouver des moyens d'aider les personnes qui se trouvent en difficulté autour d'eux. Donc c'est l'idée de départ, c'est ça.
Est-ce que vous avez un certain chiffre déjà par rapport au taux de fréquentation de cette antenne à Luc ?
Alors, elle vient juste d'ouvrir.
On a commencé début février.
Oui, c'est un peu tôt peut-être, mais...
Un peu tôt.
Mais nous avons quand même déjà 223 personnes qui sont servies sur le secteur, que nous allons revoir et justement à cette antenne. Voilà.
Il y a une cinquantaine pour l'instant, les chiffres sont 53 personnes isolées, 45 familles, ce qui représente 170 personnes. Donc, total de ces personnes livrées dans ces secteurs-là, 223 personnes en 2021.
Quelles sont les modalités auprès du public qui vient vous voir ? Est-ce qu'il y a des documents à fournir et de ne pas se retrouver justement pris au dépourvu pour la première visite ?
Absolument. Donc, nous avons fait une petite affiche, sur laquelle nous indiquons les documents à apporter au premier jour de l'entretien. Ce sont les justificatifs de revenus et de charges. Voilà. Donc, lorsque les personnes prennent rendez-vous, nous demandons quand même si elles ont besoin d'un dépannage. C'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, déjà, nous pouvons apporter des produits alimentaires.
Et ensuite, donc, bien sûr, nous établissons un dossier avec leurs coordonnées, avec leurs charges, avec leurs revenus. Et donc, en fonction de ça, donc, voilà, on les inscrit. Quoi. Ils sont inscrits, donc ils viennent après régulièrement et donc, voilà, on les connaît. Et puis, pas que, on essaye aussi d'avoir un rapport avec eux, de parler. On n'est pas uniquement des distributeurs de petits pois. Non, on veut aussi établir un lien social avec eux, donc les aider, les rassurer, les orienter surtout vers des services sociaux. Des fois, lorsqu'ils arrivent dans une situation d'urgence et un petit peu de panique, on les oriente, si on peut, si c'est possible, de les orienter vers les organismes qui sont donc sociaux, quoi, donc principalement sociaux. Et puis donc, voilà, on les aide. S'il y a besoin de, je ne sais pas moi, d'une bouteille de gaz dans l'urgence ou d'un billet de train pour aller à un rendez-vous pour un emploi ou autre, on peut répondre, ça. On a cette possibilité qui est vraiment très importante de répondre dans l'urgence. Voilà.
Depuis peu, d'ailleurs, aux distributions alimentaires, nous avons une personne qui vient et nous propose de la relaxation et du yoga. Donc, merci Julie. Elle s'appelle Julie. C'est une jeune femme. Et ça avance doucement. Il y a quelques personnes qui se présentent, donc les personnes aidées. Qui se présente, ça s'adresse aussi aux bénévoles et c'est vraiment formidable, quoi. C'est vraiment formidable.
C'est une prof de yoga diplômée qui est vraiment de bon niveau, très très bon niveau, et qui s'est proposée de faire ça bénévolement. Donc lors des distributions alimentaires, elle vient et donc elle propose aux gens, aux personnes aidées, de faire une séance de yoga et de relaxation. Et même aux bénévoles, si quelqu'un est à un petit moment de libre, il peut y aller bien volontiers. Et c'est vraiment très, très, très chouette. C'est vraiment très, très apprécié. Ça commence à démarrer, ça aussi, mais c'est vraiment très apprécié.
Je reviens vers M. Deuil. Vous êtes donc responsable et en charge de la communication pour la Fédération du Secours de la Drôme, du Secours Populaire de la Drôme. Quels sont vos moyens d'action, justement, pour vous faire connaître, vous, le Secours Populaire auprès de la population ?
Alors bon, on a comme beaucoup d'associations ou d'organismes un site internet, et également un site Facebook qui est alimenté par une personne qui m'aide aussi à la communication. Donc ça, c'est les deux vecteurs principaux. On essaye de développer d'autres axes par les antennes en faisant de l'affichage ou de l'information au niveau local. Après, bon, chaque comité qui est mieux à même à pouvoir communiquer parce qu'il connaît très bien son public le fait également. Voilà, c'est des axes classiques, je dirais, de communication. Maintenant, on a effectivement, grâce aussi au contact qu'on a avec la presse et les radios, des partenariats qui nous permettent de pouvoir communiquer sur les journaux ou à travers les radios. Local comme France Bleu ou autre, ou plus généraliste, sur des actions qu'on mène ou qu'on souhaite mener, notamment pour des campagnes, Françoise l'a évoqué, des dons d'action, mais en fin d'année, parce que c'est assez proche, on a quand même une campagne qui s'appelle les Pères Noël Verts, qui permet effectivement aux familles et aux jeunes d'avoir un complément, si vous voulez, de jouets pour Noël. Donc on a des partenariats au niveau des mairies, des partenaires privés aussi, comme Century 21, qui est un organisme national, l'ensemble immobilier que vous connaissez, l'agence immobilière. On a également des partenaires locaux qui nous proposent des développements, de nous aider à ces campagnes-là. Et donc c'est de la communication qu'on fait avec eux et à travers eux. Bon, c'est un exemple, mais effectivement, on a quand même des contacts assez intéressants par ces partenaires qui nous aident beaucoup dans ce domaine.
Comment c'est d'ailleurs, comment vous alimentez-vous en produits à distribuer auprès de la population ?
Des produits alimentaires ou des produits autres ?
Ben, les deux, que ce soit pour le bien-être ou la maison et l'alimentaire.
Bah, l'alimentaire, il y a beaucoup de collectes qui se font, et puis on a effectivement une aide au niveau de l'Europe qui aide beaucoup d'associations. On a donc s'appelle la FEAD qui nous aide à ce niveau-là, puisqu'on a des lots qui sont destinés chaque année au Secours Populaire. Et puis pour tout le reste, les jouets ou l'hygiène, etc., bah, c'est des collectes et des dons. des dons faits par les particuliers ou les partenaires.
Pour ça, pour les dons hein, de particuliers, il y a ces permanences qui sont un peu disséminées et que l'on peut découvrir sur le site internet, je suppose.
Oui, c'est ça. Il y a des possibilités de faire des dons en ligne, hein, bien sûr. Hein, ça se développe de plus en plus. Et donc le site le permet en allant soit sur Facebook, soit sur le site de la Fédération de la Drôme, permettre de faire des dons financiers ou notamment, hein. Mais il y a également des dons en nature hein, qui se font. On a des partenaires, par exemple, comme les magasins de sport et Intersport dernièrement, qui nous a fait un lot de vêtements et de chaussures de sport qui nous ont permis d'avoir quand même une distribution au niveau des comités et antennes. Que c'était des lots énormes, hein. C'est un gros déstockage de chez Intersport Romans qui nous ont permis de pouvoir distribuer effectivement des produits vêtements et chaussures qui s'étaient en bon état, puisque c'est du déstockage de produits neufs. Hein.
Je reviens, d'ailleurs, il y a eu une loi récemment qui interdisait au commerce de détruire l'invendu. Donc, est-ce que pour vous, ça, c'est un intérêt aussi pour pouvoir aider la population ou des personnes dans le besoin?
Ça peut l'être, hein. C'est pas du systématique, mais ça peut l'être, oui, ça peut l'être, hein, comme, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien se garantir dans ces cas-là, notamment dans l'alimentaire, hein, c'est que dans l'alimentaire, les grandes surfaces n'ont pas non plus une règle de ne pas jeter les produits. Mais il faut savoir que souvent, on est appelé au dernier moment pour récupérer des produits qui ne sont pas forcément de dernière. Qui sont dans la date de péremption est dépassée. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est ce qu'on essaye de lever au niveau des grands distributeurs, de leur dire nous on n'est pas la déchetterie du coin quoi. Hein. Donc souvent il faut se méfier de ça parce qu'on peut avoir des palettes qui arrivent avec des dates de péremption qui sont dépassées. Et ça, au niveau du public aidé, on n'a pas le droit de distribuer ces produits-là, hein, vous le comprenez bien. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de valider au moment où on est appelé pour venir chercher ces produits-là.
Ma question également portait aussi sur les vêtements et les chaussures. Ça aussi, oui. c'est quand même bénéfique.
Oui, alors là, les dons sont des dons particuliers ou effectivement de compagnies, enfin de sociétés. Mais là, les produits sont en général même si c'est de l'occasion, c'est des produits qu'on vérifie pour avoir une propreté. D'ailleurs, il faut que les produits soient propres, hein, lavés et propres, et puis qu'ils ne soient pas complètement usés. Hein. Donc ça, il y a un tri qui est fait soit par le particulier et qui est repris après par les bénévoles qui sont en charge de l'habillement ou du vêtement.
Ça demande d'ailleurs un gros travail de tri aux bénévoles. Hein. Et justement, j'en profite pour lancer un peu un appel aux personnes qui donnent des vêtements. On a eu une période où on pensait qu'on était vraiment la poubelle, quoi. Alors, on a énormément jeté. On jette peut-être 70% de vêtements qu'on nous donne. Donc, voilà, quoi.
Et comment...
Il y a une prise de conscience qu'on essaye de faire passer aux particuliers, mais aussi aux professionnels hein, qui déstockent. De leur dire, attention, on accepte les vêtements en bon état. C'est pas parce que les gens sont dans la pauvreté qu'on ne doit pas les traiter normalement. Hein, comme, hein, c'est quand même la dignité des gens qu'il faut respecter. Et on ne va pas donner un vêtement usé ou pelé parce que c'est un débarras d'un particulier. Hein, donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose. Dont on fait attention lorsqu'on redistribue ou qu'on met à disposition au vestiaire.
Je voulais juste, moi c'était une autre parenthèse, je voulais juste remercier la mairie de Luc et de Di qui nous accueillent donc gracieusement dans leurs locaux. Ça c'est très important pour nous, hein, c'est on dit, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si nous avons des locaux, justement, pour accueillir des personnes, pour leur donner des produits alimentaires, parce que tous les 15 jours, nous distribuons à peu près 800 kilos de nourriture. Donc, ça représente des tonnes, plus de 120 tonnes à l'échelon drômois, quoi. C'est parce qu'il y a un comité à Pierrelatte, il y a un comité à Montélimar, il y a une antenne à Valence, il y a une antenne, une antenne à Cré et un comité à Die.
Je reviens tout de même sur cette loi qui interdit la destruction de marchandises invendues. Je parle aussi des vêtements ou alors d'objets tels que les vaisselles ou les produits nécessaires au foyer.
Alors là, lorsque nous avons un surplus, nous organisons des bourses. Nous faisons deux bourses dans l'année. Une bourse donc au printemps avec le linge de maison, la vaisselle et tout le petit ménager. Nous faisons une bourse donc avant Noël avec les jouets. Et nous faisons des bourses donc directement au local de Die, qui se trouve d'ailleurs 69 avenue Sadi Carnot. Nous faisons des bourses aux vêtements, ce qui nous permet vraiment de liquider au maximum notre surplus.
Il y a l'alimentaire, le bien-être vestimentaire et la relation humaine. Est-ce qu'il y a aussi ces moments où il y a des échanges de paroles au sein des permanences du Secours populaire? Est-ce que vous êtes aussi une oreille et une attention?
Absolument. Il y a des liens qui se créent d'ailleurs avec les personnes aidées qui, elles aussi, nous aident. Voilà, c'est une forme d'échange et nous avons des contacts assez privilégiés justement avec les personnes. Le fait que nous organisions des sorties pour les enfants, des séjours et puis des sorties familiales, nous passons des journées ensemble et effectivement des liens se créent.
Et il faut savoir aussi que des personnes aidées sont devenues bénévoles au Secours populaire, hein. Nous, on a à Valence quelques bénévoles qui sont aussi des personnes aidées et qui sont devenues bénévoles.
On peut revenir sur l'antenne de Luc, indiquer aux auditeurs ses horaires et ses journées d'ouverture à l'heure actuelle.
Les permanences se tiennent à Luc-en-Diois, 50 rue de la Piscine, de 10h30 à 12h30. Donc là, c'est le jeudi 3 mars, jeudi 17 mars, jeudi 31 mars et 14 avril.
Voilà, globalement, c'est tous les 15 jours. Hein.
Globalement, oui.
D'accord. Le souhait pour vous, ça serait d'être un petit peu plus présent encore? Est-ce qu'il y a nécessité, d'ailleurs?
Alors, justement la distribution. Parce que nous pouvons effectivement, le jour de ces permanences, apporter un dépannage. Simplement que nos copains qui livrent Jean-Pierre et Martine aimeraient bien avoir un petit endroit justement pour entreposer, pour pouvoir être aussi très réactifs et pouvoir aider les familles au plus vite.
L'émission se termine, hein, l'heure passant. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, Françoise, Monsieur Guy Anton. Et puis, au téléphone, nous avions Monsieur Bernard Deuil et Madame Nadine Vallier. Je vous remercie tous les quatre, en tout cas, de nous avoir donné un peu du temps sur RDOIS pour vous présenter aux auditeurs donc le Secours populaire de la Drôme.
Merci, Radio
à vous.
Merci Radio à vous. Radio DIWA de nous avoir reçus.
Au revoir.